Vibrez avec nous.
Vibration. Vous êtes au cœur de la nuit Vibration. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Bonjour à toutes et à tous. Concilier carrière de haut niveau et projet de maternité, un véritable défi pour de nombreuses sportives. Médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l'escrimeuse Cécilia Berder est devenue maman en mai 2022. Un projet de maternité décalé d'un an en raison du report des Jeux Olympiques.
C'était un projet déjà à deux, un projet presque, je pourrais dire, viscéral. On avait vraiment envie de fonder une famille avec mon conjoint et c'était quelque chose qui nous tenait très à cœur. Évidemment, il y a eu le report des Jeux déjà.
Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Avec notre partenaire Énergie, le kit de 8 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 3 kW crête ou équivalent est à partir de 5 890 € fourni posé.
Brico Dépôt. Wow. Voyez plus grand avec nos prix dépôt.
Service proposé sous réserve de faisabilité. Prix après remboursement de la prime d'investissement d'un montant maximum de 1 050 € sous réserve d'éligibilité. Voir conditions et modalités sur bd-rénovation-énergétique.fr. Offre proposée et réalisée par la société Énergie.
Personne qui a lié une certaine compréhension, parce qu'elle avait déjà eu des enfants, et puis qui me rentrait vraiment dedans, lié avec une vraie tendresse et une vraie bienveillance, mais qui me challengeait, comme les sportifs de niveau aiment l'être. Et ça, de voir que j'étais pas en sucre, voir dans leurs yeux que je pouvais chercher de la performance tout en étant avoir de la vie qui grandissait dans mon ventre, bah, c'était jouissif, parce que vraiment, bah, j'avais compris mon projet, et ça se fait pas tout seul. C'était souvent ça qu'elle me disait aussi ma gynéco. Voilà, c'est beaucoup de bon sens, parce que j'ai la chance de connaître mon corps. Il y a des choses que je pouvais plus faire, des bonds, des sauts, des cardio à haute intensité, je pouvais plus le faire. Mais on trouvait d'autres paliers. Dans l'eau, on peut faire beaucoup de choses, des choses à poids de corps, on peut faire énormément. Et puis mes maîtres d'armes, aussi avaient vraiment compris. Je continuais à prendre des leçons. Alors ils avaient souvent un petit peu de mal à me toucher, parce que ils voyaient bien que mon gros ventre qui poussait et que c'était pas facile pour eux d'avoir une femme enceinte face à eux. C'est pas commun quand même. Mais ils étaient là à m'écouter, à comprendre où je voulais aller, et ça se co-construit, c'est sûr.
La sabreuse du cercle d'escrime orléanais a en effet continué de s'entraîner pendant toute sa grossesse. Elle ne s'imaginait pas faire autrement.
Étonnamment, c'était là où je me sentais le mieux. Quand j'étais chez moi, j'ai eu une grossesse quand même assez bonne et facile, mais j'avais beaucoup de nausées et de remontées acides sur cette grossesse. Donc du coup, c'était quand j'étais à l'entraînement que je me sentais finalement le mieux, parce que je mettais mon corps en mouvement avec des exercices adaptés, mais j'étais vraiment dans l'action. J'avais pas le temps de me reposer trop et de me concentrer sur mes nausées. J'étais vraiment concentré sur autre chose, et surtout je voyais mon corps qui évoluait, mais qui gardait en tonicité. Je m'améliorais en souplesse, le haut du corps par exemple, j'ai eu des épaules qui étaient beaucoup plus musclées qu'avant la grossesse, et ça c'est quelque chose que je continue à conserver. Donc il y a plein de domaines dans lesquels j'ai progressé. Alors évidemment, vous prenez du poids, vous perdez en explosivité, vous perdez en tonus, vous perdez en endurance, mais j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en musculature du haut du corps, j'ai pu soigner mes bobos du quotidien. C'est pas anodin aussi, parce que ça faisait plus de 20 ans que je suis en équipe de France, oui, votre corps il est un peu usé, donc du coup ça permet de faire un petit reset sur des hanches, des genoux, des articulations qui sont un peu fragilisées. Donc voilà, c'était vraiment un temps où tu sens que la vie rentre dans ton corps, et c'est pas anodin quoi. Franchement, d'avoir quelque chose qui bouge dans ton ventre, c'est quelque chose de particulier, il faut en prendre soin, c'est tellement précieux. Et en même temps, voilà, chercher la performance, voilà, c'était constamment cet équilibre là qui était fou à trouver, et ça m'a permis d'encore mieux connaître mon corps, et c'était très riche. Ouais.
En revanche, pas question pour elle de continuer les compétitions.
Au bout de 3 mois de grossesse, j'ai fait ma dernière compétition et j'ai dit c'est plus ma place. Parce que quand vous êtes en compétition, il faut vraiment avoir cet esprit très animal, très félin. Il faut donner sa vie, faut pas avoir peur de transpirer, de cracher ses poumons, de saigner, parce que c'est un sport de combat. Et vraiment, au bout de 3 mois, même un peu avant, j'aurais dit voilà, j'ai ma dernière compétition à 3 mois, j'ai dit c'est plus ma place. Voilà, je veux plus être là. J'ai quelque chose à protéger dans mon ventre et je ne supporterai pas avoir des coups. Par contre, au niveau de l'entraînement, comme moi, j'étais vraiment maître de mes entraînements, j'ai continué jusqu'au bout. J'ai pris la leçon le 3 mai avec mon entraîneur, et le 3 mai au soir, j'étais à la maternité pour accoucher. Donc, j'ai accouché le 4 mai ou le lendemain. Et donc, je suis vraiment entraînée jusqu'au bout et c'était très bien. Je suis vraiment contente de ça, parce que déjà, la grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est très bien passé. Et c'est, je pense aussi, parce que j'ai pu m'entraîner et que j'ai pu être suivie, accompagnée, que les gens m'ont conseillé, on me disait, c'est bon, ce que tu fais, c'est bien. Tu réfléchis à chaque fois, voilà, à ce que tu vas faire, à ce que tu peux faire, à ce que tu ne peux plus faire. Et en fait, grâce à ça, je pense qu'aussi ça s'est bien passé. Donc, Donc vraiment, il faut bien avoir dans l'idée en tête qu'une femme enceinte n'est pas en sucre. Et qu'elle a intérêt d'être accompagnée, parce qu'on ne connaît pas. Hein. Franchement, tu as la chance d'être quelques fois enceinte dans ta vie, mais quand tu es accompagnée par des professionnels et que tu bouges, parce que vraiment, c'est moi, là où j'étais mieux, c'est quand je bougeais mon corps, et ben c'était, voilà, ça m'a vraiment fait du bien.
Et si Cécilia Berder a pu mener à bien son projet de maternité, c'est aussi parce qu'avant elle, certaines sportives ont montré la voie, explique-t-elle.
Mélina Robert-Michon, une Charline Picon, une Cléopâtre d'Arleux, la basketteuse récemment qui à Tokyo était enceinte. Voilà, il y a des exemples. En fait, voilà, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Et moi, si j'ai cru que c'était possible, c'est parce que j'ai vu des filles faire et des filles revenir et réussir à conjuguer tout ça. Donc, en fait, ce qui est assez agréable, c'est de voir les mentalités qui évoluent. Mais même que ce soit des femmes ou des hommes, mes collègues féminines disaient, ah ouais, c'est possible, mais ça va, elles ont plein de questions. C'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec elles, même des filles qui ont 18-20 ans. C'est peut-être pas leur projet actuel, mais dans leur tête, ça fait quand même un petit bout de chemin. Et puis, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est peut-être aussi ces sportifs aujourd'hui, c'est peut-être les futurs entraîneurs. Et aujourd'hui, ils me voyaient à l'entraînement tous les jours, en séance de muscu tous les jours. Et en fait, peut-être que dans 5-10 ans, ce sera eux à la tête de l'équipe de France. Et ils diront, bah, en fait, c'est possible. Moi, j'ai déjà vu des athlètes qui étaient enceintes avec un gros bide. Et en fait, elles sont pas en sucre, hein. Puis tout ce qu'elle a fait, l'autre, on voit bien qu'elles sont pas en sucre. Et donc, du coup, ben, d'une certaine façon, quand on montre des exemples, on voit que ça évolue. Et les gens, ça fait leur petit bout de chemin. Et ils se rendent compte que c'est possible. Et du coup, pour le sport de haut niveau, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que ça, cette révolution, elle s'est faite dans les autres métiers. Et aujourd'hui, ça arrive aussi dans le sport. Voilà, une femme enceinte n'est pas blessée ou n'est pas malade. Juste, c'est une étape de vie qui est importante. Et plus on en verra, plus on se rendra compte que c'est possible.
Les sportives sont mieux accompagnées, oui, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et Cécilia Berder confie par exemple que le retour à l'entraînement et à la compétition n'a pas été facile à vivre.
Non, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que, bah, alors déjà au début, quand tu as ton quotidien qui est bouleversé par la plus belle des choses qui peut arriver dans une vie, j'ai repris par des exercices de gainage, du yoga et quelque chose, un exercice que tu pouvais tenir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là au bout de 10 secondes, t'es essoufflé, t'as mal partout, et tu te dis, ok, 10 secondes, c'est quand même chaud, quoi. De tenir que 10 secondes et encore, et 10 secondes, tu souffres, c'est, et en fait, faut faire preuve d'indulgence, de patience, d'écoute, et c'est des choses que, on n'a pas forcément l'habitude de mettre dans notre quotidien, qu'on soit sportif de haut niveau ou pas. Un peu d'indulgence envers soi, ça fait du bien aussi, et c'est surtout que, évidemment, on est dans un sport très concurrentiel, et tu retrouves le sport de haut niveau, tu retrouves la compétition, tu retrouves tes adversaires, et évidemment, elles ont pas attendu, elles sont pas elles, pas eu un début entre temps, donc quand tu reviens, tu prends des caramels, quoi, tu prends des shoots, t'es plus molle, t'es plus lente, quand tu rentres chez toi, tu peux pas faire les mêmes choses que tu faisais avant en termes de récupération, mais pour la bonne cause, parce que je vous assure qu'avoir un sourire de ma fille qui est là, tu prends des caramels à l'entraînement, elle, le soir, quand je rentre, elle me fait les mêmes sourires et on a le droit de jouer exactement de la même façon, mais finalement, c'est une autre façon de récupérer. C'est différent. Avant, je pouvais aller chez le kiné, je pouvais faire mes étirements, mon yoga, dormir davantage, c'est sûr, mais voilà, c'est la récupération, elle est plus active et tout ça, c'est très bien. Mais c'est vraiment, je me concentre juste sur ma vie professionnelle et tout est différent parce que votre corps est différent, vos adversaires sont différents, vos collègues d'entraînement sont différents, vos entraîneurs ils vous regardent plus pareil. Les gens qui font même pas votre discipline, ils sont aussi un peu curieux, voilà, ils vont tous regarder un peu, elle en est où Berder, qu'est-ce qu'elle fait, ah elle a perdu du poids, non, ah elle est comme ça, ah mais oh là là, est-ce qu'elle va réussir, ils ont tous leurs commentaires à faire parce que ça reste un projet un petit peu différent. On n'est pas habitué à voir une femme qui a un bébé et qui revient. Ça commence, hein. Honnêtement, il y en a de plus en plus. Il y a une autre escrimeuse qui est aussi comme moi. Il y a du judoka, évidemment, Clarissa Kbeninou qui est dans le même cas que moi. Mais forcément, les gens ont envie de regarder, les gens ont envie de faire un commentaire, les gens ont envie d'avoir un avis, les gens ont envie en compétition, ce serait quand même cool de la battre parce que avant, voilà, elle était classée, je sais pas combien. Donc, du coup, c'est ça qui est différent. C'est juste que tu reviens après un an où t'as pas été dans la cage au lion. Et là, boum, tu retournes dans la cage au lion. Les lions, ils ont envie de te manger. Et toi, retrouver ses repères dans cette cage, en fait, ça prend un peu de temps. Et ça aussi, il faut que je l'accepte et que je retrouve l'énergie parce que c'est vraiment aussi ça qui est important. C'est cette énergie animale qu'on a pu développer pendant un an. J'étais tellement concentrée sur que ma fille aille bien et je le suis encore qu'aujourd'hui, cette énergie qui il faut encore décupler en compétition pour avoir cet esprit tueur presque parce que ça reste du sport de haut niveau et voilà, c'est juste J'ai découvert un monde de douceur, de bienveillance avec ma famille. Et à côté, bah, faut quand même garder cet esprit très animal, quoi.
Il a fallu s'habituer à un corps qui avait changé, mais c'est aussi donc avec un état d'esprit différent que Cécilia Berder a repris le chemin de l'entraînement.
Mais tout est différent. C'est aujourd'hui, je vois les gens, que ce soit dans le monde du sport ou autre, se plaindre beaucoup. Ça a forcément été le cas avant, mais tout est différent. Le sens des priorités, perdre un match, tu relativises plus vite, c'est sûr. Quoi. C'est être fatigué, des fois tu peux t'apitoyer sur ton sort. Non, en fait non. Si je suis fatigué, en fait j'ai quelqu'un qui est là, qui attend de pouvoir manger, de pouvoir jouer, de pouvoir être propre, de pouvoir être changé, de pouvoir bien dormir. Elle compte sur moi et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un a besoin de moi aussi vitalement. Et tout change en fait, du coup, le sens des priorités. Et je trouve ça exceptionnel. C'est ma meilleure partenaire que je pouvais avoir dans une équipe, quoi. Et surtout qu'on le fait à deux. Et je pourrais pas le faire toute seule. Mon conjoint, il est là au quotidien. Et voilà, c'est un travail d'équipe. Et à trois, voilà, c'est moi qui aime la compétition par équipe. Voilà, j'ai la meilleure équipe possible pour avancer dans la vie. Et c'est la plus belle, c'est même pas une compétition, mais en tout cas, c'est les plus beaux événements qui peuvent arriver, quoi. Tout prend une saveur différente. Des fois, tu te dis, on se bat, on se prend la tête pour se qualifier à X, Y, Z compétition. En fait, aussi, des fois, des choses toutes simples. Je vais pouvoir être complètement ennuyé de dire ça, mais des choses, voilà, juste de marcher, de prendre le temps, main dans la main, être tranquillement, voilà, c'est prendre le temps de ça. Parce que les choses font que des fois, ça va trop vite et c'est important de prendre le temps de respirer.
Mère de famille, journaliste et sportive de haut niveau, la Sabreuse a dû trouver une nouvelle organisation pour concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Ouais, c'est beaucoup d'adaptation, c'est sûr, surtout les déplacements. Alors j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui des entraîneurs qui comprennent. J'ai déjà refusé deux stages, deux stages d'une semaine où on va partir très loin. Et moi, j'essaie de trouver d'autres chemins pour pas aller à ces stages-là, parce que en sachant qu'évidemment, je perds aussi des moments importants de cohésion de groupe et d'adversité ou voir rencontrer d'autres adversaires. Mais moi, je fais le choix de rester chez moi parce que c'est important. Et l'entraîneur aujourd'hui le comprend, mais parce que après, c'est à moi d'assurer sur les compétitions. Et voilà, une fois encore, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? C'est de rester dans ma famille, là. OK, là, cette compétition, elle est indispensable pour aller se qualifier là. Donc, j'y vais. Et voilà, c'est des arrangements qu'on trouve un petit peu chaque jour. Hein. Qui c'est qui va chercher sa fille à la nounou? Qui c'est qui la dépose? Moi, j'ai une grosse séance ce jour-là. Est-ce que tu peux? Parce que je vais finir plus tard. Boum, le conjoint qui s'adapte. Voilà, c'est des adaptations au jour le jour. Et c'est pour le mieux. Donc, voilà, ça se fait, c'est juste que ça demande de l'organisation. Tous les soirs, toutes les semaines, on scanne, on voit nos agendas et les entraîneurs sont compréhensifs parce qu'ils ont aussi des enfants et que depuis le début, j'ai pas menti en fait. J'ai dit voilà, ma priorité c'est ça. Numéro uno, c'est ma famille. Et après, évidemment, numéro deux, c'est le projet sportif puisqu'il est grand ce projet. Mais voilà, j'ai pas menti dès le début. Hein.
Et Cécilia Berder note que le regard des autres sur elle a changé depuis son retour à la compétition en tant que maman désormais.
Ah ouais, oui, c'était dingue. Alors déjà, ça crée beaucoup de joie puisque sur les quelques compétitions, j'ai amené ma fille sur les déplacements avec mon conjoint qui était là. Et du coup, les filles, toutes les adversaires voulaient avoir mon bébé dans les bras. C'est quand même un peu particulier. Et je leur montrais ma fille avec beaucoup de fierté, c'est évident. Mais c'est juste les filles avec qui tu vas te cogner sur la tête et deux minutes après, elles veulent porter la chose que t'as de plus précieux au monde. Et tu dis, c'est fou comment un petit être arrive à donner aussi vite de la douceur, de la tendresse, de l'amour à nous qui est en train de nous taper dessus deux minutes avant, quoi. Et donc ça, c'est chouette. Et après, ça change le regard de tout le monde. Les arbitres, les entraîneurs, les athlètes, ils savent très bien que, ils te regardent vraiment et tu te sens, comme un bout de viande regardé. Est-ce qu'elle est gras? Est-ce qu'elle est pas gras? Est-ce qu'elle est affûtée? Est-ce qu'elle est pas affûtée? Est-ce qu'elle va aussi vite ou est-ce qu'elle va moins vite?
Et y a-t-il encore des axes sur lesquels progresser pour accompagner les projets de maternité des sportifs de haut niveau? Cécilia Berder répond.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même d'être très bien suivie, que ce soit avant, pendant, après. Aujourd'hui, le plus difficile, je pense que c'est le retour à la compétition de haut niveau. Parce que tout est différent et c'est sûr que même sur l'aspect mental, il faut vraiment être accompagné parce que tu quittes avant d'être enceinte. Moi, imaginons, j'étais à Tokyo, aux Jeux Olympiques, et quand tu reviens, tu repars sur les toutes premières étapes comme quand tu avais 15-16 ans, et c'est pas facile. Et en fait, des changements-là, du divers, il est hyper constructif, et c'est intéressant d'être accompagné. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on doit pas laisser de côté, parce que voilà, la préparation mentale, c'est tout aussi importante que revenir en forme physiquement. La boîte très fort physiquement, cette cage au lion, faut de nouveau l'appréhender, savoir quel univers, et puis les choses ont changé. Ça peut paraître anodin, mais les arbitres, par exemple, n'étaient plus vraiment pareils, les adversaires sont plus vraiment les mêmes. Cette cage au lion, elle a changé. Et mentalement, il faut réussir à retrouver ses repères, parce qu'en compétition, tout va plus vite. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel aussi on doit. Je pense qu'on peut encore progresser. Ouais.
Et à 33 ans, Cécilia Berder vise désormais les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la maison, pour qui sait peut-être remporter une médaille sous les yeux de sa fille.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Bienvenue dans la nuit sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle et je vais vous accompagner toute la nuit pour vous faire écouter en version originale les meilleurs moments de la rédaction. Pour commencer, découvrons un premier extrait.
Parce qu'il n'y a pas que les chats et les chiens qu'il faut protéger, on a interviewé Karine Grèce, fondatrice du Clos des Renardises, qui se situe en Aquitaine. Comme son nom l'indique, c'est un lieu de protection pour les renards.
Alors, le Clos des Renardises, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2020, mais qui est pensée déjà depuis plusieurs années. Et en fait, au départ, je suis assistante vétérinaire de formation et d'expérience. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en Belgique en tant qu'assistante véto. Et je suis arrivée en France parce que j'ai rencontré mon compagnon. Et j'ai bifurqué un petit peu de faune, on va dire. Et plutôt que la faune domestique, je me suis intéressée à la faune sauvage parce que j'avais déjà une petite arrière-pensée et je m'en occupais déjà un peu en Belgique. Et j'ai un animal un peu totem, on va dire, qui est le renard roux. Et donc, j'ai fait de l'éco-volontariat en centre de soins où j'ai plus spécifiquement orienté mon attrait sur les renards roux qu'on accueillait au centre, donc centre de soins pour la faune sauvage. Et du coup, j'ai mûri l'idée, comme en France, j'ai constaté que le renard était un animal qui était pourchassé, mais qui bénéficiait d'un double statut qu'on ne connaît pas forcément en Belgique. Bon, il peut être un peu nuisible, mais il est plutôt gibier, mais on s'acharne pas autant. Donc en France, on s'acharne quand même dessus. Il est déjà gibier et en plus, on le considère comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Je trouve que ça ne veut rien dire déjà en termes de biodiversité. Et en plus, il n'y a pas d'argumentaire pour réel. C'est basé sur des croyances, sur des traditions et sur absolument aucun argument scientifique. Donc j'ai voulu aider ce petit animal au nom de tous les autres aussi qui sont des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, plus particulièrement chez les petits carnivores autochtones. Et du coup, j'ai créé cette association d'abord pour favoriser l'étude, enfin pour s'intéresser à l'étude, le partage des connaissances et la préservation de cette espèce. Donc pour bien juger d'une espèce ou quelle qu'elle soit, il faut quand même la connaître parce qu'on ne peut pas baser une connaissance sur des croyances, sur des constats. Oui, le fameux pilleur de poulailler. Bon, ça fait des générations et des générations, des siècles que cette étiquette poursuit cet animal, ce pauvre animal. Mais je pense que maintenant l'évolution doit aller dans tous les sens et surtout aussi en faveur de la nature. Et comme actuellement, en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur au niveau des mentalités, donc avec les restrictions au niveau des animaux dans les cirques, au niveau des zoos, on fait plus attention au bien-être animal. En animalerie, maintenant, ça évolue dans le sens où on considère enfin l'animal comme être sensible. Bon, l'animal sauvage reste encore une catégorie, on va dire, qui est encore un peu pauvrette, dans le sens où c'est un animal. Bon, les animaux sauvages, ils sont tenus à l'écart, forcément, on les voit pas tous les jours, et ça reste res nullius, qui n'appartient, donc ce qui veut dire qu'ils n'appartiennent à personne et qui sont appropriables par n'importe qui et qui peuvent être susceptibles d'être torturés. Donc ça laisse un petit peu carte blanche aux gens en sachant que s'ils torturent ces animaux ou s'ils les chassent, voilà, c'est de la faune sauvage et ils ne sont pas dans la loi, protégés au sens strict comme le sont maintenant les animaux domestiques et les animaux familiers. Donc j'ai développé l'idée de faire connaître ces animaux-là, donc le renard principalement, pour le remettre à sa juste place bioécologique et pas qu'on continue à le considérer comme le pilleur de poulailler, celui qui véhicule la rage et d'autres maladies, le pouilleux, la sale bête, enfin bon, pour essayer de faire évoluer les mentalités, mais pour protéger, il faut comprendre l'animal et pour le comprendre, il faut le connaître. Donc c'est un peu notre but. Et parallèlement à ce côté plus théorique, pédagogique, mais plus théorique, j'ai eu l'idée de créer un refuge. Il en existe déjà un petit refuge dans le nord de la France, un refuge pour renards qui sont contraints à la captivité définitive. Donc, on n'est pas un centre de soins, on n'est pas un parc animalier, mais on recueille des animaux qui seraient incapables de survivre à l'état sauvage, donc qui auraient perdu cette autonomie qui est indispensable à leur survie à l'état sauvage. Donc, ils proviendraient essentiellement deux centres de soins. Bon, à l'échelle d'un centre en France, c'est pas très significatif. Il y en a pas, on va pas en avoir des tas. Mais au niveau de plusieurs centres, et notamment de la DDT, de la police de l'environnement, qui eux pratiquent des saisies chez des gens qui détiennent des animaux illégalement, parce qu'il faut beaucoup de certificats d'autorisation, c'est très encadré de détenir un animal sauvage. Et donc il y a des animaux qui sont imprégnés et d'autres qui sont handicapés, donc ça dépend. Donc centre de soins faune sauvage, on aurait des animaux qui auraient perdu leur aptitude par un handicap, des séquelles en fait, en quelque sorte. Bon, on a une éthique, hein, on a étudié une éthique très profondément bien ancrée sur le bien-être de l'animal. Donc, on va pas garder, on n'est pas là pour garder des animaux grabataires. On est là pour donner une deuxième chance à des animaux qui ont choisi de vivre, qui ont toutes les capacités, on va dire, de bien vivre, mais qui, malheureusement, ont un petit handicap, soit moteur, soit neurologique, qui les empêche d'être à 100% dans la nature et donc de recouvrer leur vie sauvage. D'autre part, en ce qui concerne les saisies, ce seront des animaux qui seront tellement imprégnés qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, ou même s'ils pouvaient un peu se débrouiller, ils seraient trop enclins à retourner vers l'être humain. Et donc là, ce serait de toute façon le condamner à terme à être abattu ou à être, etc.
Et qu'on le précise, c'est un lieu qui n'est pas ouvert au public, hein.
C'est un havre de paix, c'est un sanctuaire pour des animaux qui récupèrent un peu. Et ce sont des animaux essentiellement qui ont des séquelles d'activité humaine, hein. Ce sont des, parce que les animaux qui meurent de leur propre mort naturelle, donc de maladie ou de vieillesse, enfin, s'ils meurent de vieillesse en milieu naturel, ce qui est très rare, on ne les retrouve pas, ceux-là. Ils vont mourir au milieu des bois. Nous, ce qu'on va récupérer, ce sont des animaux qui auront été recueillis par des gens qui les auront conduits en centre de soins à la faune sauvage et des animaux qui auront été saisis, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, on ne fait pas d'élevage non plus. Ces animaux vont être stérilisés, identifiés, parce que ça relève d'un protocole très strict au niveau législatif. Et ils seront déparasités, donc vermifugés, ils seront vaccinés, donc et on ne fait pas de reproduction du tout. Il n'est pas du tout question de relâcher des animaux dans la nature ni d'en faire un élevage. C'est pas le but du tout. C'est vraiment d'offrir une seconde vie et par là sensibiliser le public, déjà pour connaître l'espèce, pour qu'elle se rende compte que un renard, ça n'a pas la taille d'un loup, que c'est pas non plus le vecteur de la rage, parce que la rage est éradiquée en France, la rage vulpine est éradiquée depuis 2001 officiellement, que voilà, que ce n'est pas le monstre dont on en fait parfois l'écho, mais c'est un animal qui est très utile aussi et pour la biodiversité, mais aussi pour les services systémiques qu'il rend aux agriculteurs bio ou pas bio d'ailleurs, parce que il se nourrit à 75% de petits rongeurs qui eux sont des déprédateurs de culture par exemple, et ils empêchent la prolifération. Alors on explique aussi que les petits prédateurs comme le renard ne pullulent pas, parce que un prédateur se reproduit en fonction des ressources alimentaires de son milieu. Donc quand il n'y a pas assez de nourriture, il y a des années où la renarde, soit elle ne va pas être gestante, soit elle aura très peu de petits, et soit les petits vont même pas survivre. Et donc ce sont des espèces, les petits carnivores, les petits prédateurs, qui se régulent tout à fait naturellement.
Je vous rappelle le nom de l'association, le Clos des Renardises, situé en Aquitaine.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rend belle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle allait. laisser son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste, elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Si tu voyais comme c'est beau.
J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
La nuit, c'est le moment sur Vibration où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Ces derniers mois, vous avez sûrement entendu parler du métaverse, notamment avec les nouveaux projets lancés par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que le métaverse? Eh bien, on a décidé de comprendre un petit peu mieux cet univers parallèle, virtuel, en posant la question à Fabien Boyer. Il est responsable du carrefour numérique à la Cité des Sciences et de l'Industrie.
Pour que nos auditeurs comprennent bien, concrètement, comment ça se matérialise, le métavers, dans le sens où est-ce que un espace physique peut faire partie du métavers, ou tout se passe dans le numérique, dans le virtuel, et ça passe par justement de la réalité virtuelle, des casques comme on a l'habitude d'avoir? En gros, comment est-ce que on visite le métavers?
Alors en fait, justement, le métavers, c'est pas que des casques. Et l'idée de cet événement, c'est de montrer tous les différents dispositifs qui sont aussi bien de la réalité virtuelle que de la réalité augmentée. Mais c'était aussi de montrer que en fait, ce métavers, il va être bien sûr visible à la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais aussi de chez soi. Donc l'idée, c'est de rassembler des acteurs différents pour avoir une comparaison. Et ce qu'on propose de vivre, finalement, c'est des démonstrations et des expériences qui permettent de se faire une idée de ce qu'est le métavers aujourd'hui.
Alors j'arrive ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Qu'est-ce que je peux voir? Quels sont les ateliers qui me sont proposés? Comment je peux passer mon temps au niveau de ce carrefour?
Tout d'abord, vous allez être accueilli par l'équipe de médiation qui va voir avec vous, en fait, pour vous, ce qu'est le métavers, quel bagage, entre guillemets, ce que vous avez déjà fait, est-ce que vous avez déjà mis un casque de réalité virtuelle ou pas. Ensuite, il y a des démonstrations de différents acteurs qui vont vous proposer, par exemple, de vous immerger dans un monde qu'ils ont conçu avec des règles du jeu qu'ils ont mis en place, et du coup de vous faire vivre cette expérience, de voir par exemple aussi les propositions de premier cinéma en réalité virtuelle, donc comme une plateforme de VOD classique, mais là du coup on est avec ses amis dans un métavers pour regarder des films, des séries. Toutes ces expériences, elles vont être forcément centrées sur l'expérience principale qui est de visiter notre room, donc notre métavers, sur l'espace du week-end pour co-construire finalement une définition du métavers. Pour ce faire, il y a des ateliers qui vont permettre de créer son avatar, d'importer des éléments 3D dans ces métavers, de comprendre ce qu'est la blockchain, la crypto-monnaie, la NFT, enfin tous ces mots un peu barbares.
Pour revenir sur les séances de cinéma, ça veut dire qu'on arrive à avoir de la virtualité dans la virtualité maintenant? C'est Inception, en fait, c'est le cinéma dans le cinéma?
C'est une expérience communautaire. Le métavers, qu'est-ce que c'est? Il faut que ça soit quelque chose de persistant. Il faut qu'il y ait un moyen technologique d'y accéder, un casque, des lunettes. Il faut qu'il y ait une économie aussi dedans. Et il faut qu'il y ait cet aspect de partage. Et du coup, dans cette expérience, ça coche toutes ces cases-là, puisque oui, effectivement, je peux arriver avec des amis acheter un disque, une vidéo, la partager, la commenter, vivre ensemble.
Vous me disiez que on était entre guillemets obligé de parler du métaverse parce que de grandes entreprises avaient communiqué dessus, en tout cas avaient actionné les leviers, notamment donc Meta, propriétaire de Facebook. Pourtant, il y a eu des expériences aussi. Moi, je pense à Second Life. C'était un truc qui avait été testé dans les années 2000, qui est parti aussi vite que ça arrivait. Est-ce que pour le métaverse, on peut imaginer une trajectoire pareille, ou là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sérieux entre guillemets?
Alors Second Life a un peu perduré quand même. Pour les acteurs en ce moment, c'est qu'il y a une économie plus large. Second Life était presque le seul en fait. Là on voit des interactions entre divers éditeurs, divers fournisseurs d'accès, et finalement c'est une mise en commun qui fait que peut-être le métavers va perdurer et que il va y avoir des actions, j'allais dire communes à différents secteurs. C'est-à-dire que on voit bien que les technologies qui sont développées pour le loisir, elles servent aussi pour l'entreprise. Et il y a des vrais ponts entre le monde de l'entreprise, le monde du loisir, le monde de l'école. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'heure actuelle, on commence à apercevoir une potentielle maturité dans les années à venir.
Par exemple, avec les réseaux sociaux ou même l'intelligence artificielle, il pouvait y avoir des dérives avec, par exemple, des intelligences artificielles qui virent au nazisme ou au racisme. Est-ce que on peut imaginer, entre guillemets, une police du métaverse, en tout cas quelque chose qui régule un petit peu les comportements et ce qui peut exister aussi dans la vie réelle, mais qui sont normalement punis par la loi?
Alors, certains opérateurs ont déjà mis des choses en place, notamment des bulles de sécurité hein, pour permettre de s'extraire en cas d'agression. Après, en fait, c'est tout un pan de nouveaux métiers qui vont apparaître. Ces modérateurs, comment on gère ça. Pour l'instant, ça reste à l'échelle des entreprises ou des startups qui développent ces produits de le faire. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra se poser les questions, et c'est des questions qu'on se pose dans cet événement tous ensemble.
Quel est le retour des gens, des visiteurs qui viennent ici? C'est-à-dire que j'imagine qu'ils sont contents d'avoir accès à ça, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de l'inquiétude? On ne peut pas dire que la science-fiction ait toujours donné raison à des univers parallèles. Est-ce qu'il le montre, cette inquiétude? Est-ce que ça, c'est des retours que vous avez aussi en discutant avec les gens qui viennent ici?
Pas pour le moment. On a plus finalement des interrogations sur pourquoi ce buzz médiatique, pourquoi on en parle autant alors que c'est pas grand-chose, ou alors effectivement certains qui font référence à ce qu'il y a eu dans le passé. Nous, l'aspect science-fiction, on l'aime bien, c'est pour ça qu'on a dédié la journée du vendredi à ça. On va faire des tables rondes sur justement quelle était l'image qu'on avait du métavers, pourquoi on vient, enfin d'où vient ce nom, mais aussi on a envie d'impliquer nos visiteurs. Donc il y a des ateliers d'écriture avec des écrivains de science-fiction pour justement mettre un peu en forme ces idées, ces fantasmes de ce que sera le potentiel futur, et est-ce que finalement les images fictionnelles qu'on a tous en tête de certains films, est-ce que c'est ce qui nous attend ou pas.
Merci Fabien Boyer, responsable du Carrefour numérique à la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour ce point très précis sur le métavers. Et puis l'avantage du métavers, c'est que c'est du virtuel, mais on peut aussi penser le futur dans le réel, avec par exemple des technologies en réalité augmentée qui sont surtout utilisées à l'heure actuelle dans les laboratoires, l'aéronautique ou encore les productions industrielles. Mais demain, qui sait, peut-être qu'un étudiant en médecine pourra réaliser des opérations dans le métaverse et donc limiter les risques.
Got a little close, yeah. She was just my type, million dollar smile. I'm convinced she knows.
Clear. If you- stay and never leave ya. Now you won't let go. It's like ecstasy.
Bienvenue sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Les jeunes seraient-ils réticents à passer le permis de conduire? C'est du moins ce que laisse penser l'étude de référence Parc Auto menée par l'Institut Kantar. Les chiffres annoncent que 69% des 18-24 ans ont le permis en 2022, contre 77% en 2002, soit une baisse de 8% en 20 ans. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse. Un coût trop élevé, une prise de conscience environnementale ou encore l'objet voiture qui ne fait plus autant rêver qu'avant. Alors, on est allé poser la question à un spécialiste du permis de conduire.
Bonjour, Bruno Garancher, je suis président de l'association École de conduite française.
Alors Bruno, vous me disiez qu'il fallait être prudent avec les chiffres et surtout qu'il fallait les nuancer selon la zone géographique où se trouvent en fait les conducteurs.
Le recul de l'âge du permis de conduire est très variable suivant les zones géographiques puisque globalement, si c'est assez vrai dans les zones urbaines où des moyens alternatifs de transport peuvent être utilisés, transport en commun, utilisation du vélo, etc., et des mobilités douces. C'est beaucoup moins vrai dans les zones rurales et dans les villes moyennes, puisque là, la plupart du temps, les jeunes n'ont d'autres moyens que l'accès à l'automobile pour arriver à gérer leurs déplacements du quotidien. Ce qui veut dire que quand on regarde, nous, effectivement, la répartition des âges de passage du permis de conduire, on s'aperçoit que les agences qui sont situées dans ces villes moyennes et dans ces zones rurales restent sur des âges qui sont plus proches de 18 ans, voire qui ont tendance à se rajeunir. Puisque si effectivement on avait vu jusqu'en 2019 apparaître un réel vieillissement, qui était probablement dû aussi au fait que pour les familles, la charge du financement du permis de conduire devenait de plus en plus difficile à supporter, les différentes mesures qui ont été prises de façon à favoriser le financement par les familles, que ce soit le permis à 1 euro, la prise en charge partielle de la formation par les centres de formation d'apprentis pour les jeunes qui sont apprentis, l'utilisation du CPF pour les gens qui ont pu travailler comme apprentis par exemple à partir de 16-17 ans ou simplement qui ont travaillé en job d'été ou en job d'accompagnement de leurs études, on voit nettement un rajeunissement, et je le répète, hein, surtout sensible dans les zones rurales et villes moyennes.
Alors il y a quand même quelque chose que je note à titre personnel, c'est qu'on remarque que chez les jeunes lycéens, ce n'est plus tellement un objectif comme il pouvait l'être il y a quelques années. C'est-à-dire que avant, c'était comme le bac, c'est-à-dire il fallait passer le bac et puis le permis. Là, on a l'impression qu'il y a un peu un désintéressement, qu'il y a des choses qui font que, bah voilà, le permis ne devient plus réellement obligatoire dans l'état d'esprit des jeunes.
Oui, vous avez raison, mais en fait, c'est pas tellement lié à l'utilisation du véhicule, dans le sens où globalement, les jeunes conviennent sans aucun problème qu'ils ne peuvent pas se passer de l'auto, c'est plutôt lié aux représentations qu'ils ont vis-à-vis de l'automobile. Les générations un peu plus anciennes, entre guillemets, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin, passer aussi le permis de conduire par rapport à l'aspect social de l'automobile. C'est-à-dire que le permis de conduire, vous le disiez assez bien, faisait partie des rites de passage vers la vie adulte et pouvait aussi correspondre à des représentations individuelles qui faisaient que avoir une automobile, entre guillemets, sa place vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, ces représentations, effectivement, sont en très très net recul, ce qui aussi a des effets plutôt positifs, parce que ça veut dire que si on met moins d'affect dans l'automobile, on risque moins de l'utiliser comme objet de représentation et de pouvoir, entre guillemets, ou de frime. Ça génère aussi des comportements qui sont différents sur la route, mais il n'empêche, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'auto reste, de toute façon, y compris pour ces jeunes-là, un objet d'obligation, c'est-à-dire que faut bien passer par là, certainement, pour une partie du moins, sachant que il y a encore une partie de la population pour qui accéder à l'automobile est une vraie valorisation. Il y a encore une partie de la population pour qui passer le permis de conduire est accéder pratiquement au seul diplôme qu'ils auront dans leur vie et pour lesquels c'est à représentation forte.
Il y a aussi une évolution dans le choix des formations, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes vont aussi se tourner vers les boîtes automatiques, donc plutôt les voitures, on va dire, électriques, hybrides, et puis même, il y en a qui vont littéralement vers les voitures sans permis, par exemple la dernière là de Citroën qui est sortie. Ça, c'est un vrai boom qu'on connaît chez les jeunes.
Comme les représentations vis-à-vis de l'auto sont moins fortes, bah effectivement, on va aller vers des véhicules qui sont moins porteurs de symboles, plus pratiques, plus aisés à conduire et qui correspondent plus aux mobilités dont on a réellement besoin. Donc, vous citiez l'exemple de l'AMI, on pourrait citer globalement l'exemple de l'ensemble des quadricycles, puisqu'on voit que ce marché du quadricycle léger, qu'on a tendance à appeler voiturette, est en plein boom. Effectivement, aussi bien du côté de l'AMI, qui elle a en plus une caractéristique particulière, c'est que c'est un véhicule électrique, donc elle rentre dans le schéma global de ces mobilités douces et moins polluantes, mais on voit aussi les immatriculations assez considérablement augmenter du côté des constructeurs encore thermiques, je pense à Ligier et Aixam par exemple, qui sont les deux constructeurs français importants. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet à la famille de donner accès à un véhicule 4 roues plus protecteur entre guillemets que le cyclomoteur dès 14 ans, et puis effectivement dans cette espèce de continuité où on a commencer déjà à travailler avec un véhicule qui avait pas de boîte de vitesse, qui avait pas d'embrayage, ça emmène les jeunes à s'intéresser de plus en plus à la boîte automatique, d'autant plus que les véhicules auxquels vous faisiez référence, c'est-à-dire les électriques et les hybrides, sont tous équipés de boîte automatique pour un certain nombre de raisons. Donc oui, on a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui hésitent très clairement quand ils arrivent à 18 ans pour passer le permis de conduire, entre aller directement sur de l'automatique ou passer par la boîte manuelle, sachant quand même que la boîte automatique les intéresse pour des raisons de facilité et pour des raisons de coût, puisque la durée de la formation sur une boîte auto est amputée pratiquement d'un tiers de sa durée, donc derrière génère des économies de coût sur le permis de conduire.
Et est-ce qu'au-delà du contexte économique, il y a aussi le contexte écologique, c'est-à-dire que ben voilà, moi j'ai pris conscience que j'avais envie de moins polluer en roulant avec ma voiture, donc je vais me tourner vers ce type de modèle.
Il y a ça, mais les jeunes se projettent aussi dans l'utilisation de leur véhicule en termes de travail, et ils savent pertinemment que le véhicule qu'ils auront éventuellement à conduire en termes de travail, je pense aux apprentis par exemple, hein, apprentis du bâtiment, les apprentis qui savent que derrière leur métier sera conditionné par le déplacement, ils vont avoir tendance à malgré tout choisir la boîte manuelle parce qu'ils savent que dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, on n'aura pas forcément de véhicule à boîte automatique. Donc il y a un système d'attirance-répulsion. Alors souvent, ce qu'ils font, et sous notre conseil, c'est qu'ils commencent par la boîte automatique, sachant pertinemment que après 3 mois de permis de conduire, ils peuvent basculer sans avoir d'examen à repasser sur une boîte manuelle, simplement en passant par la formation.
Est-ce que vous auriez quelques chiffres pour illustrer un petit peu, alors déjà, la différence entre passer son permis dans un contexte urbain et dans un contexte rural, mais aussi passer son permis quand on habite Paris, la capitale, et puis quand on habite la province ou même d'une autre grande métropole de France?
Pour ce qui concerne les agences du groupe ECF, l'âge moyen du permis de conduire sur Paris Grande Couronne se situe aujourd'hui à 23 ans et 7 mois. Pour ce qui concerne une ville comme Bordeaux, on est un petit peu en dessous puisqu'on se situe à 22 ans et 2 mois. Et pour le centre-val de Loire, c'est-à-dire des zones comme Tours, comme Blois, on est sur un âge qui, lui, est descendu à 18 ans et 1 mois. Alors, sachant que dans le 18 ans et 1 mois, faut aussi prendre en compte le fait qu'en province, le nombre de jeunes commençant à apprendre à conduire avant 18 ans est nettement plus important puisque c'est dans ces zones-là que la conduite accompagnée est la plus développée. La moyenne nationale, toujours dans les entreprises du groupe ECEF, se situe aujourd'hui à 18 ans et 9 mois.
Donc finalement, on est plutôt sur des âges assez classiques. C'est vraiment sur la façon dont le permis de conduire est passé que les choses évoluent un petit peu.
Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, zone province, j'ai envie de dire, et Centre-Val de Loire, là-dessus, est complètement représentatif à mon avis. On est sur les zones où les jeunes passent le permis de conduire le plus tôt, à la fois parce que la conduite est accompagnée et la plus représentée. Donc on a des jeunes qui vont passer réellement les épreuves du permis de conduire à 18 ans et un jour, j'ai envie de dire presque, voire même certains le passent avant 18 ans puisque la loi le tolère aujourd'hui avec le droit de conduite, le droit de conduire à 18. Et une région comme Centre-Val de Loire pour l'ECF, c'est plus de 32% des jeunes qui passent leur permis de conduire en conduite accompagnée. Dans les zones urbaines, d'abord parce que les parents souvent ont moins accès à un véhicule qui leur permet facilement de faire de la conduite accompagnée pour différentes raisons. Là, effectivement, les jeunes passent de leur propre autorité le permis de conduire. C'est vrai à Bordeaux, un peu moins qu'en région parisienne. Et là, on a des âges qui sont un petit peu plus élevés. C'est-à-dire que les jeunes vont commencer à penser au permis de conduire à partir du moment où ils vont penser insertion dans l'entreprise.
Donc pour vous, tant qu'on n'aura pas développé plus les transports en commun, en fait, le permis de conduire et la voiture plus largement resteront le moyen de transport majeur chez les Français.
Aujourd'hui, de toute façon, les moyens de déplacement autres que la voiture ne sont pas suffisants pour gérer la totalité des déplacements privés et professionnels. Donc ça amène effectivement aujourd'hui toujours les jeunes à s'intéresser au permis de conduire à la voiture. Ce qui va évoluer, s'il y a une évolution à venir à terme, c'est pas le fait d'avoir son permis de conduire et de conduire, c'est le fait de pas avoir nécessairement une voiture en propriété pour l'ensemble de nos usages. Si on se projette, et quand on travaille nous avec Renault qui est notre partenaire, quand on se projette sur l'avenir, c'est plutôt le fait que la voiture risque d'être un objet partagé, la voiture risque d'être un objet vers lequel on investit moins et financièrement et affectivement, mais ça reste encore aujourd'hui l'outil de déplacement le plus utilisé et le plus utilisable pour les déplacements du quotidien dès lors qu'ils ne sont pas couverts par les transports en commun.
Merci Bruno Garancher, président de l'ECF, pour cet éclairage sur les jeunes et le permis de conduire.
This ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now, woo. There's a tornado, ooh,
a tornado
in my city,
in my city.
In the basement.
That shit ain't pretty.
Rugged whiskey,
we're surviving.
A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em,
hey.
Lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, with all your keys up. Come take it to the floor.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
To the right, we headed to the dive bar we always thought was nice.
take it to the front.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the flow now. Take it to the flow now.
Oops.
Spurs. To the flow now. Take it to the floor now.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, boots,
sodogenic, photogenic, shoot.
Vibration.
Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold in my hands pictures of you. Dream of the day you were 8 and for 2.